L'association Codico est née d'un constat dramatique. Après avoir bravé bien des embûches pour arriver en France, les personnes réfugiées, souvent qualifiées, face à un véritable parcours du combattant pour s'insérer socialement dans notre pays. La méconnaissance de la langue et du marché du travail français, la non-reconnaissance des diplômes étrangers et les difficultés pour trouver un logement conduisent ces personnes à une déqualification quasi systématique, leur faisant perdre tout espoir de retrouver une identité professionnelle. Notre objectif est de réussir l'intégration professionnelle de réfugiés en partenariat avec des salariés volontaires et avec l'appui d'associations partenaires. Cécile Pierrat, présidente et cofondatrice de Codico. Alors, pour tout savoir de Codico, aujourd'hui, avec moi dans le studio, Milena Aimé, bonjour.
Bonjour.
Et Ewen.
Bonjour.
Bonjour, voilà. Alors, Milena Aimé, vous êtes salariée sur l'antenne de Tours de Codico, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, je suis la responsable de l'antenne de Codico à Tours, qui existe depuis septembre 2017.
Et vous, Ewen, vous êtes le binôme salarié?
Je suis dirigeant d'entreprise à Tours. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir accompagner un réfugié. Et donc, c'est actuellement en cours et je vais pouvoir vous en parler un petit peu aujourd'hui.
Voilà, donc je vais donner la parole à Milena. Est-ce que vous voulez nous expliquer plus en détail en quoi consiste ce tandem, ce binôme salarié-réfugié?
Donc en fait, ce tandem, il est mis en place pour une période de 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va recruter des personnes réfugiées qui ont un niveau en français qui leur permet quand même de pouvoir s'exprimer et de pouvoir échanger sur un projet professionnel. Ça ne veut pas forcément dire que elles ont un niveau en français très élevé, mais en tout cas, ça leur permet quand même de pouvoir présenter leur projet, parler de leurs ambitions. Et ces personnes, on va les recruter donc grâce à des partenaires sur le territoire. Et en même temps, on va aussi faire un démarchage auprès des entreprises ou de dirigeants d'entreprises qui vont accepter d'accompagner pendant 6 mois des personnes sur leur temps de travail et sur leur lieu de travail. Et donc, on va mettre en relation ces personnes par rapport à un projet professionnel, un secteur d'activité commun ou des passions communes. Et donc, pendant 6 mois, elles vont travailler ensemble pour accompagner sur la lecture d'un CV, appeler, rechercher des formations, s'entraîner à un entretien d'embauche. Ça peut vraiment varier selon le projet de la personne, puisque c'est vraiment un accompagnement personnalisé.
Alors, vous avez dit déjà que ces personnes accompagnées, elles ont un niveau de français qui leur permet en tout cas d'avoir ces échanges. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur qui elles sont? Parce qu'il y a tout un parcours du combattant, comme le dit la fondatrice, mais c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont accédé au statut de réfugiés, donc c'est-à-dire qu'elles sont, que ce n'est pas des primo-arrivants.
Oui, exactement. En fait, donc les personnes que nous on accompagne, ce sont des réfugiés statutaires, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait leur demande d'asile et qu'elle a été acceptée en France. Donc, pour faire court, même si c'est un petit peu complexe comme sujet, les personnes, quand elles arrivent en France, elles demandent, donc elles déposent un dossier auprès de la préfecture pour demander l'asile. Et donc là, c'est ce parcours du combattant dont notre cofondatrice parle. C'est-à-dire que il faut écrire son récit de vie, il faut passer un entretien très long devant un office qui va vérifier de la véracité des propos. On va attendre encore. Et pendant tout ce temps, en fait, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas non plus accès à des formations, que ce soit en français ou des formations professionnelles. En fait, elles ont le droit d'attendre. Elles ont le droit d'attendre et de rester sur le territoire pour savoir si finalement elles vont être acceptées ou pas comme réfugiées. Donc nous, les personnes qu'on accompagne à Codico, ce sont toutes des personnes qui ont été acceptées par l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui va les protéger, leur donner un titre de séjour qui va leur permettre de rester sur le territoire, de travailler, d'avoir accès à la formation, le droit au logement, et donc de pouvoir recommencer une vie et donc retrouver leur dignité.
Voilà, donc c'est quand même extrêmement complexe parce que le travail, c'est on dire l'estime de soi, bien sûr, c'est avoir reconnu ses compétences, et c'est aussi un moyen de vivre, en fait, de pouvoir subvenir soi-même à ses besoins. Donc on comprend bien que c'est indispensable.
Exactement. Codico, nous, on arrive vraiment à la fin de tout un processus. En fait, on est là pour accompagner les personnes sur la dernière marche, c'est-à-dire que elles ont obtenu l'asile, elles ont obtenu un logement, elles ont accès à la santé, elles ont des ressources qui sont minimales, comme pour tous les Français, mais elles ont quand même des ressources. Et donc, il leur reste ce dernier pas à franchir, qui est celui de l'emploi. Et donc, nous, on va vraiment être là pour les accompagner sur l'estime de soi, sur la valorisation de leurs compétences et donc obtenir le travail, soit qu'elles avaient avant, soit retrouver un emploi ici en France. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas, enfin qui souhaitent tourner la page de leur passé et qui ne souhaitent plus refaire le même métier que celui qu'elles avaient avant.
Alors, parce que vous parlez d'un accompagnement, mais est-ce qu'il y a aussi des ateliers peut-être pour aider ces personnes dans l'apprentissage du français, peut-être pour dans la confiance en soi
En fait, il y a beaucoup de... L'accompagnement Codico, c'est donc 6 mois. C'est un accompagnement donc individuel avec des salariés et des dirigeants d'entreprise qui vont les accompagner de façon personnalisée. Et il y a bien sûr un accompagnement collectif par Codico. Donc, il y a différents types d'ateliers. Il y a des ateliers qui sont en lien direct avec la recherche d'emploi. Donc, ça va être des ateliers CV, par exemple. Ça peut être comment pitcher son projet professionnel. Quels sont les sites en France les plus utilisés pour pouvoir réaliser son projet, chercher un emploi. Ça peut être aussi mieux connaître le marché de l'emploi en France. Beaucoup de Français d'ailleurs ne savent pas tous ces chiffres. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient conscients du marché de l'emploi, des secteurs qui recrutent, pour pouvoir se faire une idée et répondre au mieux à leurs attentes. Donc ça, c'est la première partie des ateliers. La deuxième partie, ce sont des ateliers qu'on appelle en lien indirect avec la recherche d'emploi, mais qui répondent à des freins, comme par exemple la mobilité. On va travailler avec des associations qui vont les accompagner pour l'obtention de leur permis de conduire, par exemple. Ça peut être aussi des ateliers de confiance en soi, des ateliers théâtre, d'écriture. Ça peut être aussi des ateliers coaching, on appelle ça, c'est-à-dire des ateliers où on va vraiment travailler sur les compétences, les qualités, ce qu'on aime faire, pour être conscient que même si on ne maîtrise pas complètement la langue, on a de nombreuses compétences qui peuvent être mises en avant. Et donc nous, on va travailler avec eux pour combattre ce sentiment négatif lié à la recherche d'emploi et vraiment les accompagner pour qu'elles se sentent capables à nouveau et autonomes dans leur recherche.
Je me tourne vers Ewen, vous êtes chef d'entreprise et donc vous participez à ce dispositif d'accompagnement. Est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce projet ?
Alors du coup, ce qui était intéressant, c'est que déjà notre entreprise est basée dans les mêmes locaux que Codico, donc on a l'occasion de se côtoyer et de voir qu'il se passe quelque chose très intéressant dans les locaux, avec des personnes qui arrivent, qui on ressent une envie. Et quand effectivement Codico a lancé un appel pour que des chefs d'entreprise puissent être des binômes de personnes réfugiées, je me suis dit j'ai un petit peu de temps où j'ai envie de prendre du temps pour faire ça, parce qu'effectivement on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses à faire hein, pour aider les personnes en France, peu importe leur statut, peu importe d'où elles viennent. Et là, effectivement, on a des personnes qui n'ont pas eu de chance dans leur vie, qui ont vécu quand même beaucoup de galères et qui arrivent aujourd'hui en France avec des connaissances, avec des compétences. Elles ont dû laisser leur famille derrière. Et voilà, elles ont besoin juste d'une main tendue pour apprendre la notice de comment ça marche en France. On sait que tout est compliqué. Même pour un Français, remplir ses impôts, trouver un travail, tout est très compliqué. Mais alors pour en plus quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes du pays, c'est un vrai parcours du combattant, comme on le disait. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais essayer. On va voir ce que ça donne, sans garantie de succès. Hein, c'est bien ce que nous dit aussi Codico. C'est pas parce que vous accompagnez quelqu'un qu'à la fin, il doit absolument avoir un travail. C'est juste de l'aider, de l'accompagner, de lui donner un peu confiance aussi en lui. Et du coup, voilà, je me suis proposé dans ce cadre-là. Et après, effectivement, il y a eu un travail de rencontre, de pré-rencontre. On nous explique comment ça marche. On échange un petit peu avec les différentes personnes de la promotion des réfugiés. Et après, l'équipe Codico fait un travail de matching pour pouvoir mettre les personnes en fonction de leur profil ensemble. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai rencontré Hussein, qui vient du Congo. Et voilà, qui est une personne alors qu'on m'avait dit très attachante, très motivée, et effectivement j'ai pu le voir.
Alors comment vous avez travaillé avec Houssen? Parce que voilà, quand on rencontre une personne, quelle qu'elle soit, c'est, au début c'est pas facile. Comment on s'entend? Comment on met des choses en place?
Alors, on a quelques points communs avec avec Houssen. Déjà, on est jeunes tous les deux. Alors jeunes relativement, je suis j'ai 32 ans. Houssen vient de faire il a fait ses 19 ans. Donc on est jeunes tous les deux. Et surtout, il a un grand dynamisme, et vraiment une motivation qui est assez impressionnante. Donc ça a pu se voir à travers son projet. Si au début ça pouvait être un petit peu flou parce que on ne sait pas trop, on a des compétences, mais comment on fait pour trouver du travail ou avoir une formation? Donc son projet de base était un petit peu flou. Il était retravaillé avec l'équipe Codico et de par lui-même, il s'est dit. Voilà, par rapport à ce que j'ai vu dans mon pays, j'ai envie de devenir soudeur. Alors comment on fait pour devenir soudeur en France? Aujourd'hui, moi ça me parle pas, c'est pas un profil de métier que je connais. Donc on a vu qu'il y avait des formations qui pouvaient être dispensées, des formations aussi qui sont prises en charge parce que c'est des métiers sur lesquels on a des pénuries d'emploi en plus. Donc c'est le bon métier, normalement il aura pas de souci pour le trouver du boulot derrière. Ce qui va être important de faire, c'est toutes les démarches pour réussir à trouver cette formation. Parce qu'effectivement, chez Codico, la plupart des réfugiés sont en recherche de projets professionnels, donc en recherche de travail, mais certains, comme Houssen, sont plus à la recherche de formation pour par la suite intégrer un métier. Et du coup, donc ça a été un gros travail de recherche pour savoir comment on faisait, et notamment qui prend en charge les formations. Alors, il y a eu plusieurs difficultés. Pôle emploi, parce qu'il est accompagné par Pôle emploi, nous a donné des indications en nous disant il faut vous renseigner auprès d'un centre, AFPA, etc. L'AFPA nous a donné d'autres indications, que ce soit au niveau de l'AFPA local ou au niveau national. Et la mission locale qui accompagne aussi Houssen nous a donné d'autres informations. Les trois n'allaient pas ensemble. Bon, il y a un moment, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et c'est ça qui prend un petit peu de temps. C'est qu'en France, on a plusieurs institutions qui ne parlent pas forcément entre elles, qui ne sont pas toujours au courant de comment ça marche. Et là, on va dire la principale difficulté qu'on a eue avec Houssen, c'était de savoir comment ça marche. Moi, j'en avais aucune idée. Et franchement, je me dis, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes français, c'est vraiment l'enfer. Aujourd'hui, le succès, c'est que Houssen va intégrer une formation là, début avril. Donc en attendant, il est très volontaire, il a réussi à trouver du travail en intérim. Donc ça, formidable, je ne l'ai pas aidé là-dessus. Il s'est débrouillé tout seul, il était voir les agences, donc parfait. Et après, du coup, la formation, il va l'intégrer et normalement, tout sera OK pour lui pour trouver du travail derrière.
Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce parcours, Milena?
Je peux que être d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, c'est vraiment ça. Il y a des choses qui existent en France, mais en fait, même nous Français, on les connaît pas très bien. On découvre en même temps. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui nous parle de son projet, à chaque fois, c'est des nouveaux challenges pour réussir à trouver comment faire par rapport à telle ou telle personne. Et voilà, c'est gratifiant et de savoir que Houssen commence sa formation là dans les prochains mois, c'est vraiment une joie de se dire qu'on a pu contribuer à notre échelle à permettre à une personne de se reconstruire et notamment Houssen, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment en fait ce qui est commun à beaucoup de personnes. C'est que des choses existent, mais c'est comment on fait pour les mettre en place, qui on doit contacter, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Et donc, on utilise cette expérience à Codico pour la transmettre et aux salariés et aux personnes réfugiées qu'on accompagne pour toujours accompagner au mieux les personnes qui vont être accompagnées par Codico.
Ça veut dire que vous devenez aussi, est-ce que vous êtes identifié à Tours comme lieu ressource, en fait, s'il y a des gens qui accompagnent des personnes réfugiés et qui peut-être ont envie de les aider mais ont aucune idée, sont perdus dans toute cette administration?
Oui, c'est le cas. Alors Codico est une association quand même très récente. Elle existe sur le territoire national depuis juin 2016 et donc à Tours depuis un an et demi. Donc là on commence vraiment à être identifié et donc on a de plus en plus de contacts aussi avec les associations locales pour travailler ensemble parce que on réinvente pas la roue, hein. Il y a des choses qui existent déjà mais c'est comment on fait pour travailler en synergie, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, comment on peut répondre à certaines questions parce que il y a des acteurs qui sont très doués pour faire de l'insertion professionnelle, il y en a d'autres qui vont pas du tout connaître le public donc réfugié. L'idée c'est vraiment de mettre nos compétences en commun pour pouvoir accompagner au mieux toutes ces personnes qui arrivent sur le territoire d'Indre-et-Loire.
Que vous parlez de synergie, est-ce que vous voulez peut-être nous dire avec quelles associations vous travaillez justement ?
Oui, alors il y a différents types d'associations. Donc il y a d'abord les associations qui vont nous prescrire des personnes, c'est-à-dire des associations ou des structures institutionnelles qui accompagnent les personnes réfugiées. Donc par exemple la maison départementale, le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, qui vont accompagner les personnes au RSA. Parce que très souvent, les personnes réfugiées sont au RSA puisqu'elles n'arrivent pas à avoir un emploi. Donc par exemple, ces organismes vont nous prescrire, vont nous envoyer des personnes qu'elles considèrent correspondre à nos critères et qui vont pouvoir intégrer la promotion Codico. Ça peut être aussi des associations de quartier, des centres sociaux qui, par la rencontre, vont penser que Codico peut répondre aux besoins de ces personnes qui ont été identifiées. Donc on travaille vraiment avec toute l'association du territoire pour permettre d'identifier au mieux les personnes qui auraient besoin de notre aide. Ensuite, il y a les associations culturelles. Je pense par exemple à l'ASSO, donc, c'est-à-dire le Temps Machine, donc l'association qui s'occupe du festival Terre du Son. Ils vont travailler avec nous pour proposer du bénévolat à nos bénéficiaires, et ce qui va leur permettre de parler en français, tout simplement, de participer à la vie locale. Et donc, souvent, ce qui revient de la part de nos bénéficiaires, c'est... on parle français juste pour parler français, c'est super. On rencontre des gens qui sont pas là pour nous demander est-ce qu'on a fait telle ou telle démarche. On est juste avec des personnes qui s'intéressent à nous, pas de où on vient, mais simplement pourquoi on est là aujourd'hui et qu'est-ce qui nous intéresse dans telle action culturelle qu'on fait ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et c'est pour ça qu'on cherche aussi à travailler avec davantage d'associations culturelles, mais aussi sportives, pour justement permettre aux personnes réfugiées de rencontrer davantage de Français. Parce que c'est un vrai besoin. Au-delà de l'emploi, c'est vraiment recréer du lien social. Et la meilleure façon de comprendre la société dans laquelle on est accueilli, c'est aussi de la partager avec ceux qui y vivent.
Une question pour vous, Ewen. À votre avis, le fait d'accueillir Houssen, pour d'autres entreprises, d'accueillir des personnes suivies par Codico, comment ça change une culture d'entreprise? Comment ça fait évoluer des fonctionnements existants?
Alors déjà, c'est enrichissant parce que ça permet de se reposer certaines questions de base et de voir que les choses ne vont pas forcément de soi. Je parlais des démarches administratives qui sont très compliquées. Alors l'entreprise que je dirais qui s'appelle Numatera est assez récente, hein, elle a un an, donc les démarches administratives j'ai pu pas mal donner cette année également. Là on est sur d'autres démarches qui sont également très compliquées, donc bon, j'en avais un petit peu conscience, mais ça permet quand même de revoir ces choses de base. Ça permet aussi d'avoir du recul globalement sur toutes ces activités, sur tout ce qu'on fait, sur ce qui est important, dans la vie. Et je pense que pour des structures qui sont un peu plus grosses, des entreprises qui sont plus importantes, qui vont avoir donc des salariés cette fois-ci qui accompagnent des personnes réfugiées, on va apporter une dimension de responsabilité. Je sais plus si on dit social ou sociétal, enfin une responsabilité RSE dans l'entreprise qui est hyper intéressante parce que ça va sensibiliser les collaborateurs qui vont en parler autour d'eux et ça va permettre à chacun de se dire oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont en galère dehors, on a nos petits problèmes du quotidien, mais aujourd'hui mon entreprise me permet de me rendre compte aussi que finalement on est dans un confort de vie, que c'est bien et quelque part on n'a pas toujours le temps sur notre temps personnel de consacrer de l'énergie à des projets associatifs, et le fait que des entreprises donnent l'opportunité à leurs salariés d'avoir une action pour une association, c'est un vrai cadeau, je trouve, et ça apporte que des valeurs positives au sein de l'entreprise. Vous avez chez Codico quelques entreprises qui sont partenaires, qui vous suivent déjà depuis quelques années. Je pense qu'elles ont vu derrière qu'il y avait un véritable intérêt. Les collaborateurs en parlent entre eux et ça amène d'autres personnes qui ont envie d'accompagner des salariés. Donc nous, Numatera, on est encore un petit peu jeunes pour en parler, mais sur les plus grosses structures, je pense, Milena, que tu peux rebondir là-dessus.
Oui, ouais. En fait, vraiment, on le voit, les collaborateurs, à la fin des sessions, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que, bien sûr, ils ont apporté leur aide aux personnes qu'ils ont accompagnées, mais c'est aussi, moi, j'ai appris beaucoup. En fait, moi, j'ai aussi gagné. Enfin, vraiment, ce qu'on essaye de dire, c'est que ce binôme qui est créé, il est vraiment gagnant-gagnant parce que, bien sûr, il y a une personne qui a retrouvé l'emploi, ou en tout cas le chemin vers l'emploi. Et puis, c'est aussi les personnes qui accompagnent, qui ont pu s'enrichir de cette rencontre, qui ont pu comprendre aussi comment ce qu'elles font dans leur travail peut permettre à d'autres de mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent. Je pense par exemple à une personne qui travaillait dans le secteur médical, et on avait une personne réfugiée qui était manipulatrice radio. Bon, il faut savoir qu'en France, les diplômes étrangers liés à la santé ne sont pas reconnus, aucun. Et donc... pour cette personne, c'était impossible de pouvoir exercer à nouveau en tant que manipulatrice radio. Et donc ce binôme s'est mis en place, et cette personne qui pensait ne pouvoir rien apporter s'est rendue compte que via ses contacts, elle a pu permettre à cette personne de faire un stage à l'hôpital. Donc c'est des choses toutes simples où on se dit en fait, grâce à mon travail, je peux permettre aussi à d'autres de réussir à se reconstruire et à mieux comprendre. Cette personne maintenant, donc Sally, elle a aussi rencontré une école qui forme au métier de manipulateur radio. Elle a pu se renseigner grâce à son binôme qui a pu lui faire rencontrer les bonnes personnes pour lui expliquer comment on fait pour passer les concours, comment on fait pour se préparer à un examen, quels livres on doit acheter, parce que tout ça c'est pareil, ça s'apprend et ça se prépare. Et donc ce binôme, c'est aussi une réussite pour nous, même si c'est des parcours qui vont prendre plus de temps. La formation, bien sûr, ça se fait pas en 6 mois, mais en tout cas, le chemin est là, l'action existe, et donc on se rend compte que beaucoup de salariés, donc je prends l'exemple de cette personne, mais il y en a beaucoup d'autres, elles se rendent compte que par leur métier, elles sont capables d'apporter aussi à d'autres personnes et de transmettre ce qu'elles savent, ce qu'elles connaissent, et donc permettre à ces personnes de mieux comprendre et de savoir comment, comment se diriger et trouver les solutions pour chercher un emploi.
Oui, parce que je rebondis là-dessus parce qu'il y a une logique de réseau aussi. Je pense que c'est intéressant. Alors, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon réseau professionnel particulièrement pour Houssen de par son profil. Par contre, effectivement, s'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, aujourd'hui, un accompagnant de réfugiés peut utiliser son réseau professionnel. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce que dans un réseau professionnel, on a les personnes, on a nos clients, on a nos prestataires. Et on a aussi pas mal de gens qui peuvent graviter autour de nous, qui ont des entreprises, et on sait pas toujours, on n'a pas toujours des points d'intérêt. Or là, concrètement, on peut trouver du gagnant-gagnant. Par exemple, si je travaille avec, si dans mon réseau il y a une entreprise qui est dans les métiers du bâtiment et qui notamment peut chercher un soudeur, sans problème, je peux les contacter, leur dire j'ai quelqu'un qui a besoin de faire un stage, et derrière vous allez enfin réussir à pouvoir embaucher quelqu'un en soudure.
C'est vrai que tout ce que vous dites, on mesure aussi à quel point ça peut peut-être secouer des fonctionnements établis, tout ce qui est peut-être une folie administrative très française, une non-reconnaissance de diplôme, et puis peut-être aussi, on en a beaucoup entendu parler, il y a énormément de salariés dans les grandes entreprises qui s'ennuient parce que leur travail n'a plus de sens. Et ça leur semble difficile à comprendre eux-mêmes. Et donc, l'idée que ces jeunes ou moins jeunes, ces personnes compétentes qui arrivent en France, elles secouent tout ça un peu. Ça fait l'effet d'une boule de neige qu'on agite et il y a plein de choses qui...
Alors, je ne sais pas si elles s'ennuient, mais c'est vrai que par contre, il y a un vrai... Je vais recommencer. Alors, je ne sais pas si elles s'ennuient, mais par contre, c'est sûr qu'il y a un véritable besoin de quête de sens. En tout cas, les personnes qui participent au programme, c'est ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire qu'elles ont envie aussi de pouvoir contribuer à leur échelle à un enjeu de société. Et donc, c'est vrai que pour elles, c'est vraiment important de pouvoir participer parce que c'est aussi une façon de travailler qui est différente. Ça permet de rediscuter avec des collègues avec lesquels on va pas forcément prendre le temps de parler. Mais ce type de projet, ça va vraiment permettre aussi de fédérer l'équipe, l'entreprise autour d'un projet commun. Et donc de se rendre compte à quel point aussi on peut apporter quelque chose, on a de la valeur. Et donc c'est tout ça qui est aussi très important pour l'équipe. Et puis on voit aussi au sein des entreprises qu'il y a une montée en compétences des salariés parce que finalement accompagner c'est pas si simple. Même si on essaye d'outiller et de donner toutes les ressources pour que les personnes se sentent à l'aise, c'est aussi l'expérience qui va permettre aux personnes d'apprendre. Et donc tout ça, c'est aussi valorisant pour les salariés d'entreprise. J'ai un salarié d'entreprise, je me souviens, qui m'avait dit avec mon binôme, j'étais prêt à l'écouter et à revoir mes schémas de pensée parce que je savais qu'il venait d'un autre pays et qu'il comprenait pas forcément ce que je disais, donc je reformulais. Et en fait, il m'a dit, maintenant, je le fais aussi avec mon équipe parce que je me dis que même s'ils sont français, peut-être que eux non plus, ils comprennent pas exactement ce que je veux et ça me coûte rien de le reformuler pour se mettre d'accord aussi avec eux avant de démarrer quelque chose. Donc en fait, on voit que au-delà de cet accompagnement donc en binôme, il y a aussi des choses qui se jouent en entreprise et qui peuvent leur permettre eux de s'améliorer et de monter aussi en compétences.
Comment vous êtes perçu par l'institution, par la région, par parce que je sais qu'il y a Madame Pénicaud en fait qui a pu reconnaître la qualité du travail Codico. Du coup, comment vous êtes perçue par les institutions?
Alors, on est très récent, donc pour des, et ce qui est normal, mais pour des questions de, comment dire, il faut qu'on ait 3 ans d'existence, par exemple, pour avoir certains soutiens d'institutions. Donc, on attend encore de passer cette date des 3 ans pour pouvoir être davantage reconnu au niveau des collectivités et des institutions. Mais on a déjà des soutiens hein, de la métropole, du département. Et puis là, on vient d'être donc reconnu par un appel à projet du ministère du Travail. Donc, on a rencontré Muriel Pénicaud il y a maintenant un peu un mois exactement, parce qu'on fait partie des 18 lauréats donc de l'appel à projet qui propose en fait des solutions de retour vers l'emploi pour les personnes réfugiées. Donc avec d'autres associations, nous avons été reçus par la ministre et on a pu lui présenter en détail notre programme, notre projet, et elle a pu discuter directement avec nos bénéficiaires, avec les salariés qui accompagnent, avec nos bénévoles, pour vraiment comprendre comment fonctionne notre modèle. Et c'est justement, je pense, pourquoi notre association a été choisie et est lauréate de cet appel à projet, parce qu'on a la volonté aussi d'essaimer sur le territoire. Pour l'instant, on existe à Paris, Tours et Orléans. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir 1 à 2 villes par an.
Puisque c'est la minute sérieuse, disons, est-ce que vous voudriez nous donner quelques chiffres pour qu'on puisse saisir l'importance en fait de votre travail?
Oui, alors en fait, donc Codico, c'est déjà 8 promotions. Il y a des promotions tous les 6 mois. Donc il y en a 5 en Ile-de-France. La 6e vient d'être lancée il y a quelques jours. En Touraine, on a actuellement Ewen donc accompagne donc sur la 3e promotion. La 4e promotion va être lancée en avril prochain. Ce sont plus de 300 professionnels qui se sont mobilisés partout en France. Et c'est aussi plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont accepté de se mobiliser à nos côtés. Donc les entreprises, c'est vraiment des entreprises de toute taille. On a des très grandes entreprises comme EDF, la SNCF, la Société Générale par exemple. Mais c'est aussi des entreprises et des PME locales comme par exemple Numatera, mais aussi le domaine de la Tortinière. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir convaincre un maximum d'entreprises petites ou grandes, de contribuer à leur échelle à un enjeu de société. C'est aussi plus de 150 bénévoles qui sont engagés à nos côtés. Et puis, bien sûr, ce sont des sorties positives. C'est-à-dire que, donc je donne les chiffres en Touraine, après 6 mois d'accompagnement, c'est 70% des personnes qui sont en sortie positive, c'est-à-dire CDD de plus de 3 mois, CDI ou formation qualifiante.
Voilà, donc ça marche.
Ça marche.
Et Ewen, est-ce que vous pensez vous proposer pour accompagner d'autres personnes?
Oui, je pense, pas forcément sur la prochaine promotion. Alors, et j'ai l'impression que c'est un point commun avec les autres personnes qui accompagnent, parce que j'ai pas envie d'accompagner Houssène et de me dire après 6 mois, Houssène, j'avais un contrat 6 mois avec toi, bonne chance dans ta vie. On est sur de l'humain et derrière, j'ai envie de savoir comment ça se passe pour lui, est-ce que sa formation se passe bien. À l'arrivée de la formation, c'est pas parce qu'il est dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de recherche qu'il est certain de trouver du travail comme il le veut. Donc peut-être qu'il aura aussi besoin d'un coup de main à ce niveau-là. Et tout simplement, humainement, en fait, c'est vrai que je m'entends très bien avec lui. L'autre jour, je lui ai proposé d'aller faire une visite de Tours en courant. Ça dépasse le cadre de Codico. Et c'est humainement très sympa. Donc ça veut dire qu'il y a un attachement humain qui est fort. Donner du temps et aussi de l'humain à une personne directement après sur une autre promotion, non, pas forcément. Peut-être après, si je ressens... si je sens que je peux de nouveau consacrer du temps à une personne, je le ferai avec grand plaisir, parce que je sais que c'est utile et c'est positif pour moi, c'est positif pour tout le monde, donc avec grand plaisir, ouais, je le referai.
En tout cas, c'est une initiative que vous allez recommander à d'autres...
Oui, concrètement, tous les chefs d'entreprise peuvent le faire. On n'a pas toujours idée de comment utiliser son réseau. Les chefs d'entreprise ont en général du réseau. Donc là, on donne un sens très très fort à son réseau. Et pour les personnes qui sont dirigeants de grandes entreprises, c'est une vraie action qui est hyper intéressante pour leurs collaborateurs. On n'est pas sur sur du team building, des activités cohésion ou du recyclage de déchets, enfin toutes les actions que peuvent mettre en place les entreprises. Là, on est sur de l'humain, et l'humain, ça fait du bien à tout le monde au sein de son entreprise. Donc ça, c'est très très fort. Et après, et si vous, sur les auditeurs, s'il y a des salariés qui nous écoutent, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant aussi d'en parler à sa direction en disant « Voilà, j'ai entendu parler de Codico, moi j'aimerais bien faire ça, j'ai juste besoin du soutien, de votre soutien, puisqu'en tant que salarié, il y a un petit peu de mon temps voilà, qui sera consacré à l'accompagnement. » Mais derrière, voilà, c'est tellement positif.
Oui, je rebondis pour dire que le temps demandé, tu me confirmeras, Ewen, c'est pas non plus, on ne demande pas non plus un investissement qui demande énormément de temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'engagement qu'on demande, c'est 10 rendez-vous sur 6 mois. Donc, ça fait à peu près 3-4 heures par mois, je crois.
Oui, même pas. En général, c'est vrai qu'on est le temps de faire le point, on est sur. Nous, on est sur du 2 heures. Alors après, des fois, il y a des petits coups de rush. Voilà, l'autre jour, on avait un dossier. L'AFPA nous dit, ils envoient un courrier à Houssen en lui disant, voilà, vous devez nous renvoyer le courrier rempli qui fait 20 pages pour le jour même. Voilà, donc 20 pages avec, c'est quoi votre numéro de sécurité sociale ? Bon, il y a des choses un peu classiques, mais c'est quoi le deuxième nom de je sais pas quoi ? Enfin, des choses qui même pour moi vont pas de soi. Je me dis, mais c'est une galère avec des documents, des attestations de Pôle emploi, de banque, de machin, etc. à réunir en une journée. Les gens, ils sont pas en temps d'attente d'avoir que la formation. Ils ont aussi du boulot, voilà, où Houssen, il bosse en intérim. Donc, il a pas, même si la formation est prioritaire, il avait besoin d'un coup de main. Et là, j'ai pris du temps, on a rempli ça ensemble, et c'est essentiel.
Et encore une fois, si un salarié, par exemple, n'est pas disponible, parce qu'il a aussi ses propres obligations, bien sûr, on appelle Codico tout de suite et on dit, là, il y a un souci, il faut absolument remplir ce dossier et on va faire tout ce qu'il faut pour que le dossier soit rempli à temps. Soit directement, donc, nous, salariés de Codico, mais j'en appelle aussi aux étudiants qui écoutent cette radio et qui ont envie de devenir bénévoles pour Codico. Il y a vraiment plein de missions qui sont proposées. Ça va vraiment de missions ponctuelles qui vont vraiment être là pour accompagner sur un atelier en one shot pour refaire un CV avec quelqu'un. Et ça peut être aussi des conversations en français qui peuvent être faites plusieurs fois par mois si on a envie d'aider des personnes à mieux s'exprimer en français. Voilà, il y a énormément de choses. Et puis, en passant par aider à remplir un dossier, parce que c'est vrai que c'est pas très sympa, mais c'est mieux si on le fait à plusieurs.
Sur un autre sujet, parce qu'il n'y a pas que les problématiques liées à l'emploi, il y a aussi un peu les facilités de la vie, et notamment le passage du permis de conduire, qui est aussi un indispensable pour le monde du travail. Certains ont des permis donc dans leur pays d'origine. Les équivalences, c'est un dossier à remplir sous un certain délai. Et pour ça, alors nous, au niveau salarié, c'est toujours un peu compliqué, c'est encore un autre sujet. L'équipe de Codico maîtrise le sujet et du coup peuvent prendre la main. Donc eux, en général, les réfugiés ont des attentes par rapport à ça. Et là, l'équipe de Codico a des partenaires, a une façon de faire. Donc on peut quand même se reposer sur l'équipe.
Alors j'ai une question aussi, parce que dans les personnes que vous accompagnez chez Codico, donc on sait que Houssen a 19 ans. Donc c'est des jeunes gens, je pense qu'il y en a certains qui ont entre 18 et 25 ans, donc je ne sais pas si vous voyez se profiler ma question, mais est-ce que entre le moment où débute une formation ou une recherche ou une embauche, est-ce que c'est des jeunes gens ou jeunes femmes qui peuvent être intéressés par une mission de service civique ?
Oui, alors ça dépend vraiment de chaque profil. On n'a pas forcément beaucoup de jeunes, Houssen... Il est pas, ce ne sont pas des profils majoritaires dans notre promotion. On a à peu près 20% de personnes qui ont moins de 25 ans. Après, la plupart sont plus âgées. On n'a vraiment aucun critère par rapport à l'âge. On accompagne même des personnes qui ont 60 ans. Il n'y a aussi pas de critère par rapport au diplôme. On a des personnes qui sont très, très diplômées, avec quelqu'un, par exemple, qui a un doctorat en mathématiques appliquées. Et à l'inverse, on a des personnes qui n'ont aucune formation. Mais qui ont quand même de l'expérience. Donc, il y a vraiment aucun profil type. Et par rapport à la question du service civique, pour en avoir fait un, je soutiens et j'appelle aussi toutes les personnes qui ont vraiment envie d'en faire un. Après, c'est aussi une difficulté par rapport aux ressources. C'est-à-dire que les personnes réfugiées, en général, elles ont personne sur qui s'appuyer, contrairement aux jeunes qui, souvent, peuvent quand même... compter sur le soutien de leurs amis et de leur famille. Là, ici, c'est quand même compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le service civique, quand on a une famille, c'est très compliqué de pouvoir travailler avec une indemnité qui va être assez, enfin, qui est à peu près équivalente au RSA. Donc pour les jeunes qui sont célibataires en général, c'est vraiment une option. Pour ceux qui ont une famille, ce qui est aussi souvent le cas, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà. Alors, quelles autres choses on peut proposer à ces personnes, donc du bénévolat dans plein d'associations?
Vous parlez pour les personnes réfugiées?
Pour les personnes réfugiées, qu'est-ce qu'on peut leur proposer si on a envie de leur proposer des façons d'améliorer leur français, de rencontrer des personnes françaises?
Oui, alors le bénévolat, vraiment le bénévolat. Après, ça peut être aussi des activités à Codico, mais aussi ailleurs. On essaye vraiment qu'elles puissent trouver des activités de loisirs ou sportives qui leur permettent de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et puis après, on essaye aussi qu'elles puissent avoir des stages. Ça peut être des chantiers d'insertion, ça peut être des rencontres aussi. L'idée, en fait, c'est vraiment qu'elles puissent parler français, tout simplement. Donc toute activité hors démarche administrative qui leur permette de parler français, c'est vraiment bienvenu.
On peut peut-être aussi parler des... parce que là, actuellement, on est bientôt vers le terme de la promotion. Il y a des personnes qui ont déjà réussi à avoir un CDD, certains sont entrés dans des formations, et on a encore des personnes qui sont en recherche d'emploi. On a quel type de profil, là, par exemple, qui est encore en recherche? Peut-être que, d'ailleurs, sur les auditeurs, ça peut aider.
Oui. Alors, sur les profils qui sont toujours en recherche d'emploi, on a donc, par exemple, un data analyst. Donc, c'est le monsieur qui est en mathématiques appliquées. On a aussi des personnes qui sont comptables, mais qui savent très bien que leur diplôme, ça va être très compliqué. Et donc, du coup, elles sont plutôt sur... Donc, c'est une femme. Et elle recherche, par exemple, à travailler en tant qu'agent d'entretien ou travailler dans des écoles pour pouvoir surveiller les enfants le midi, des choses comme ça. On a aussi des personnes qui sont... on a une personne qui est pâtissière. Et je vous confirme, c'est vraiment excellent ce qu'elle fait. Donc, si quelqu'un recherche un pâtissier, n'hésitez pas à appeler Codico. On a aussi une personne qui était psychologue dans son pays. Encore une fois, à cause du niveau de français, ça sera bien sûr compliqué d'exercer tout de suite. Mais en tout cas, de chercher un métier qui s'en rapproche ou des... En tant qu'assistante, des choses comme ça, c'est vraiment très important pour eux. On a aussi une secrétaire qui a travaillé pour l'UNESCO au Burundi pendant plus de 18 ans, qui a un super profil. Et pareil, si vous recherchez une secrétaire, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, on a vraiment plein de profils différents. Et c'est vrai que toutes ces personnes, mais comme n'importe qui en France qui recherche un emploi, c'est parfois... déstabilisant et déprimant de se dire qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. Et donc voilà, rien que de pouvoir avoir des offres qui sont proposées, d'avoir la chance de passer un entretien, déjà c'est beaucoup et ça permet de reprendre confiance en soi et de se dire en fait on va y arriver.
Il y a même quelqu'un qui a monté son commerce.
Oui, exactement. Mais je crois que tu l'as visité d'ailleurs.
Moi j'ai été voir, ouais, je suis curieux.
D'ailleurs, si vous voulez passer, c'est au rue Colbert, c'est le, j'ai oublié, 99.
Je sais plus quel numéro c'est. Il est voilà, la devanture est en installation. Je te laisse en parler peut-être.
Oui. Alors en fait, donc c'est une personne qui est originaire du Congo et qui a décidé de créer son commerce, donc de vente d'art, de souvenirs africains. Et donc il s'est lancé il y a très peu de temps. Hein, ça fait quelques semaines qu'il vient d'ouvrir donc rue Colbert. Donc ça démarre doucement et il espère vraiment que ça puisse fonctionner. Donc si vous voulez passer le voir, il s'appelle Augustin et il sera très content qu'on aille lui rendre visite.
Voilà, même sans objet d'art, il vend aussi du café du Rwanda. Voilà, donc c'est quand même en dehors du fait d'aimer l'art africain, c'est une vraie expérience parce que voilà, il prendra le temps de vous expliquer qu'est-ce que sont les objets, d'où ça vient et comment c'est fait.
Bah vous me donnez un super sujet de reportage là.
Tant mieux.
Alors avant de terminer cette émission, est-ce que vous voulez redonner peut-être les liens où on peut retrouver toutes les informations relatives à votre activité.
Oui. Alors, on peut déjà tout simplement se connecter sur le site de Codico, donc www.codico.fr. Et ensuite, si vous avez envie de faire du bénévolat avec nous ou si vous travaillez dans une entreprise qui aurait envie de participer à l'aventure, vous pouvez m'écrire directement donc à Milena, M-I-L-E-N-A, @codico.fr.
K-O-D-I-K-O.
Voilà. Et vous, Ewen, est-ce qu'on peut voir le site de votre entreprise?
Oui, donc c'est l'agence événementielle aventure Numatera. Donc nous, on propose notamment pour les particuliers des rallyes du type Pékin Express au départ de Tours avec deux dates prochainement et aussi des activités de cohésion pour les entreprises. Donc c'est www.numatera.fr.
La cohésion, hein.
Toujours la cohésion.
Voilà. Eh bien, merci à vous d'être venu nous présenter Codico. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.